Le journal, Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et bien entendu, l'essentiel de ce journal sera consacré aux résultats attendus de l'élection américaine avec déjà cette première polémique après que Donald Trump a plongé son pays dans l'inconnu en se déclarant vainqueur de la présidentielle alors même que le décompte se poursuit, provoquant aussitôt une contre-attaque de son adversaire Joe Biden en position a priori plus favorable pour l'emporter ou qu'on le spectre. De longues journées d'incertitude et d'âpres batailles judiciaires hantent désormais la première puissance mondiale. Nous serons évidemment en direct avec nos envoyés spéciaux sur place et puis avec nous en studio, invité de la rédaction. Aujourd'hui, Anne Desine, américaniste, professeure émérite à l'Université Paris-Ouest Nanterre, spécialiste des questions politiques et juridiques aux États-Unis.
Dans le reste de l'actualité, Thomas, nous nous rendrons tout d'abord en Autriche.
Oui, là-bas, l'enquête se poursuit après l'attaque terroriste de lundi soir revendiquée par le groupe État islamique en France. Reconfinement oblige le gouvernement présente ce matin son quatrième projet de loi de finances rectificative pour 2020. Et puis nous reviendrons également sur l'examen chaotique hier soir du projet de loi clé sur la prolongation de l'état d'urgence sanitaire. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera bien sûr la grande table des idées.
C'était une retraite choisie après plus qu'une mésaventure, une déroute comme paysan, agriculteur. Il a choisi de se retirer le temps d'un printemps en haut d'un arbre. C'est une expérience de vie philosophique dont nous parlera notre invité. Édouard Cortès sera avec nous à partir de 12h55.
Il était une fois en 2020 où quand rarement l'attente du résultat d'une élection présidentielle aura autant justifié ce long et mythique travelling circulaire donnant à voir à tour de rôle le regard fixe de chacun des deux personnages principaux avant le duel final. Bienvenue en Amérique, donc au terme d'une campagne particulièrement agressive marquée notamment par une polarisation extrême de la société. Et où après s'être affronté hier dans les urnes, ni Donald Trump ni Joe Biden ne semblent aujourd'hui en mesure de revendiquer avec certitude la victoire. Ce qui signifie non seulement que les démocrates qui se prenaient à rêver d'un succès limpide en sont pour leurs frais, mais aussi que le camp républicain pourrait être en passe de faire à nouveau mentir les sondages. En revanche, une chose semble d'ores et déjà acquise, le taux de participation s'annonce historique et c'est bien là justement ce qui pourrait retarder les opérations de dépouillement et faire naître une vive incertitude quant à l'identité du futur occupant de la Maison-Blanche. Une incertitude que le président sortant entend bien mettre à profit. Lui qui, dans une allocution confuse prononcée depuis la Maison-Blanche, a déclaré ce matin avoir remporté l'élection tout en ajoutant qu'un petit groupe de gens essayait de lui voler la victoire.
Rien ne va nous arrêter. Nous étions prêts à remporter cette élection et on peut déjà le dire, nous avons remporté cette élection. Alors aujourd'hui, notre objectif est d'assurer l'intégrité pour le bien-être de cette nation. C'est un grand moment. C'est un moment décisif et il y a une fraude qui est à l'œuvre. Nous souhaitons que la loi soit utilisée à bon escient. Et donc, nous allons nous tourner vers la Cour suprême des États-Unis. Nous souhaitons que tous les décomptes soient arrêtés. Nous ne souhaitons pas qu'ils trouvent des bulletins de vote à 4 heures du matin pour les rajouter au décompte. Et nous allons gagner. Et je peux déjà vous dire que nous avons gagné cette élection.
Allocution signée donc Donald Trump depuis la Maison-Blanche. Notons pour être tout à fait précis que c'est Joe Biden en réalité qui le premier avait décidé de prendre la parole lors de cette nuit électorale, entraînant aussitôt une riposte des Républicains. Toujours est-il que ces propos du président sortant ont été évidemment, on l'imagine, assez mal perçus, disons, par les électeurs démocrates, comme en témoigne le reportage à Washington de notre envoyé spécial Jérôme Jadot.
Dans ce petit groupe d'étudiants venus passer la soirée électorale devant la Maison-Blanche, tout le monde a voté Joe Biden. Alors, quand Donald Trump a revendiqué la victoire, cela a choqué Brenda.
Ça m'a vraiment troublée, mais je n'ai pas été particulièrement surprise. Il fait toujours ses accusations, qu'il gagne les élections, tout ça. Pourtant, la plupart des bulletins par correspondance sont susceptibles d'être démocrates, donc il ne devrait pas faire de telles affirmations de victoire. Mais on pouvait s'y attendre de la part de Donald Trump.
Des démocrates désabusés mais pas démobilisés, leur candidat doit rester serein et battant, selon Brian.
Je pense que Biden devrait rester dans la course. Il sait qu'il doit attendre que les bulletins soient comptés. Attendre jusqu'à ce que le dernier bulletin soit compté.
Compter méthodiquement et faire valoir le droit, l'équipe de Joe Biden s'est dite prête au combat judiciaire si Donald Trump saisit, comme il l'a dit, la Cour suprême.
Un reportage à Washington signé Jérôme Jadot. Loïc Laurie, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous êtes vous en direct de New York. Alors comme attendu, les propos de Donald Trump évoquant donc une fraude, mais sans livrer aucun élément concret, tout en s'arrogeant la victoire dans un scrutin pourtant encore indécis, ont aussitôt été jugé scandaleux, Loïc, donc par l'équipe de campagne de son adversaire.
Ouais, scandaleux, sans précédent, selon la chef de campagne de Joe Biden. Le candidat démocrate lui avait déjà pris la parole avant que Donald Trump ne s'exprime, mais il avait peut-être senti venir le coup, affirmant ceci, ce n'est pas à moi ou à Donald Trump de dire qui a gagné cette présidentielle. Alors, il faut dire que ce coup de force de Donald Trump n'est pas vraiment une surprise. Le président, depuis des semaines, des mois, a préparé le terrain et les consciences en multipliant les sorties contre de prétendues fraudes électorales liées au vote par correspondance. Le résultat, c'est que les démocrates ont utilisé ce système postal massivement et que ce sont ces votes, notamment, qui sont comptés en ce moment même dans les états clés. Donald Trump aurait intérêt à stopper la machine. Le président, pour cela, menace d'aller jusqu'à la Cour suprême où, rappelons-le, il vient d'installer une juge ultra-conservatrice, Amy Coney Barrett. Réponse de l'équipe de Joe Biden dans la foulée des propos de Donald Trump que vous avez diffusés. Nous avons des équipes de juristes prêtes à être déployé pour combattre ces efforts, ça pourrait annoncer un sacré bras de fer devant les tribunaux.
Alors, pour l'emporter, on le rappelle, l'un des deux candidats doit obtenir le soutien d'au moins 270 des 538 grands électeurs du collège électoral. Pour l'heure, Joe Biden recueillerait 227 grands électeurs contre 213 pour Donald Trump. Et c'est ainsi que tous les regards se tournent à présent, Loïc, vers deux États, en particulier la Pennsylvanie et le Wisconsin.
Oui, ces swing states, ces états clés des Grands Lacs, de la Rust Belt, avec aussi le Michigan, hein, qui ont permis à Donald Trump de l'emporter il y a 4 ans avec à peine 11 000 voix d'avance, notamment dans ce Michigan. C'est un scénario qui était tout à fait envisagé, mais c'est le pire pour le camp démocrate qui espérait, poussé par de bons sondages, reprendre un état comme la Floride, espoir déçu, ou encore plus gros, historique, même le Texas, espoir déçu, là aussi. Quant à l'Ohio, qui est un peu l'oracle de la carte électorale américaine, puisqu'il penche du côté du grand gagnant à chaque fois depuis 1964, eh bien là encore, Donald Trump l'a emporté. Résultat, retour aux fondamentaux, la Pennsylvanie, le Wisconsin, le Michigan, où le décompte des votes n'est pas fini, sans quoi Donald Trump n'aurait pas pu invoquer hier soir ses fraudes électorales ni proclamer sa propre victoire. Voilà le scénario de la soirée. Il faut toutefois rappeler que si ce scénario semble avoir tourné à l'avantage du président, rien n'est scellé, il faut le répéter, et la route est encore étroite, très étroite même, pour que Donald Trump puisse être réélu à la Maison-Blanche.
Merci Loïc Loury, en direct de New York. Alors parmi ces États, on lisait qu'ils se retrouvent désormais sous la loupe des observateurs, on trouve donc la Pennsylvanie, où vous vous trouvez, Maxime Tellier, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Vous avez passé la soirée, Maxime, aux côtés d'électeurs républicains dans cet État clé où l'on attend donc toujours les résultats définitifs ce midi.
Oui, État clé, hein, avec 20 grands électeurs, et donc une soirée où l'ambiance a suivi une trajectoire inverse, hein, à celle des démocrates qui croyaient pour certains une vague bleue. Deux vagues bleues, il n'y a pas eu, et ça s'est vu, hein, sur les visages des républicains avec qui j'étais, dans un bar de la petite ville d'Hazeltown, dans le nord de la Pennsylvanie, des sourires, des applaudissements à mesure que Trump faisait finalement aussi bien, ou presque, hein, qu'il y a 4 ans. Et ça n'étonne pas Michael, qui était présent hier soir.
Il y a quelque chose qu'on appelle la majorité silencieuse dans ce pays. Richard Nixon avait utilisé cette expression, des gens comme moi qui vont au travail tous les jours, qui restent discrets, qui croient dans la loi et l'ordre. Ils ne prennent pas la parole mais s'expriment pendant les élections. C'est ce qui arrive ce soir. Certaines personnes sont peut-être surprises, mais ça n'est pas ma faute si on ne nous entend pas. Nous sommes toujours là.
Voilà, et en somme, l'Amérique de Trump est restée fidèle à Trump. Alors, un point résultat côté Pennsylvanie, 3/4 des bulletins ont été comptés jusqu'à présent, et c'est le décompte des bulletins anticipés qui prend du temps. Il y en a 2,5 millions, 8 fois plus qu'il y a 4 ans, et vous le savez, c'est un mode de scrutin privilégié par les démocrates. Alors, si vous regardez actuellement la carte de Pennsylvanie, elle est plutôt rouge, mais elle pourrait redevenir bleue. On appellerait ça le blue shift, donc il n'y a pas eu de vague bleue, mais le scénario maintenant, ce serait un mirage rouge et un blue shift. Voilà. Mais tout cela, on ne le saura pas avant ce soir au mieux, c'est ce que déclarent les officiels en Pennsylvanie, voire même plutôt demain.
Merci Maxime Tellier en direct de Philadelphie pour continuer d'évoquer le chaos de cette soirée électorale. Invité de la rédaction aujourd'hui, Anne Desine, américaniste, professeure émérite à l'université Paris-Ouest Nanterre, spécialiste des questions politiques et juridiques aux États-Unis. Bonjour madame.
Bonjour, merci.
Cette situation donc où chacun des candidats revendiquerait dans le cas de Biden une possible victoire et du côté de Trump une victoire avec d'ores et déjà la menace d'un recours judiciaire était en réalité assez prévisible, même redoutée. Donald Trump avait fait le pari de cette crise. Certains avaient même déjà donné un nom à ce scénario, le mirage rouge. L'idée étant au fond que eh bien si Trump crie victoire avant que tous les votes aient été comptés, lorsque les chiffres définitifs tomberont, peut-être plusieurs jours après, le véritable résultat de l'élection pourrait être englouti dans un maelstrom de désinformation. Qu'est-ce que cela nous dit aujourd'hui ? Des déficiences ou même peut-être des lacunes de la démocratie américaine.
C'est vrai que ces institutions datent de 1787 et qu'elles ne sont plus vraiment adaptées. Le collège électoral pose un problème puisque on se bat à quelques milliers de voix près et que cela peut faire basculer une élection. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que justement cette élection va se jouer sur trois États, le Wisconsin, la Pennsylvanie et le Michigan, qui ont comme caractéristique d'être des États très serrés, mais surtout d'avoir accueilli beaucoup de bulletins de vote par correspondance et le droit de chacun de ces trois États prévoit qu'il est interdit de commencer à dépouiller et à traiter les bulletins de vote avant le jour de l'élection. Donc il y a eu une accumulation de plusieurs millions de bulletins et les personnels des bureaux de vote sont en train de faire aussi vite que possible. Et par exemple en Pennsylvanie, ils sont partis se coucher, ils vont reprendre à 9h heure américaine, c'est-à-dire 15h pour nous. Et pendant ce temps-là, il ne se passe rien. Et la deuxième caractéristique, c'est que dans le cas de la Pennsylvanie, les bulletins reçus jusqu'à vendredi, du moment que cachés de la poste fait foi, ils ont été postés le 3 ou avant le 3, pourront être comptabilisés. Donc on sait que cette période d'incertitude va durer longtemps. Il y a quand même une ou deux bonnes nouvelles. La première, c'est que pour le moment, il n'y a pas eu de violence. Et moi, j'étais personnellement très inquiète. La seconde, c'est que les médias, y compris Fox News, font pour le moment preuve de responsabilité. Sur Fox, ils ne se sont pas précipités pour annoncer des victoires. Ce qui peut expliquer que, certes, le président a dit plusieurs choses, il a fini par dire « nous avons gagné », mais c'était quand même, comme vous l'avez dit, un message extrêmement confus, parce que c'était « nous allons gagner », donc le même type de message que Biden, un message d'optimisme tourné vers l'avenir. Ensuite, oui, enfin, si on ne gagne pas, ce sera parce qu'ils nous volent l'élection, donc ça c'est le côté un petit peu dangereux, mais c'est moins dangereux exprimé verbalement que s'il avait envoyé toute une batterie de tweets comme il le fait habituellement. Alors peut-être a-t-il craint que les réseaux sociaux, qui sont très très conscients du risque, auraient quelque part soit barré, soit mis une mention disant que ce n'était pas sûr, qu'il n'avait pas encore gagné, et peut-être interdit de retweeter, comme ça avait été le cas pour cette sombre histoire d'ordinateur avec les mails de Hunter Biden, que le New York Post avait sorti, je ne sais pas quoi, de sa veste ou de sa chemise.
Aujourd'hui, Donald Trump menace d'avoir recours à la Cour suprême. Est-ce que cette intervention vous semble possible? On se souvient qu'en 2000, George Bush avait réussi, lui, à remporter la Floride sur intervention justement de la plus haute juridiction américaine qui avait interrompu le décompte des voix, c'est-à-dire précisément ce que demande aujourd'hui Donald Trump.
Oui, c'est la raison pour laquelle tout le monde se dit, cette affaire va-t-elle aller jusqu'à la Cour suprême? Je pense que les choses sont différentes. Tout d'abord, les litiges électoraux relèvent du droit de l'État. C'est-à-dire qu'a priori, si quelqu'un conteste la prise en compte de certains bulletins en Pennsylvanie, il devra aller devant la juridiction de première instance de Pennsylvanie, peut-être ensuite en appel, et la Cour suprême de Pennsylvanie. Même chose dans le Michigan, etc. Et les recours peuvent être intentés à la fois par les républicains, s'ils veulent essayer de se débarrasser, que ne soient pas comptabilisés certains bulletins, ou par les démocrates dans la situation inverse. Alors, les juridictions fédérales sont parfois saisies et elles sont intervenues avant l'élection sur les modalités de vote à plusieurs reprises. Alors, soit des cours de première instance, soit des cours d'appel, soit même la Cour suprême à plusieurs reprises. Mais ce n'est pas automatique parce que c'est du droit étatique et théoriquement, les juridictions fédérales n'interviennent que si l'un des requérants invoque la Constitution des États-Unis ou une loi fédérale. Et sur le plan de l'opportunité, je pense personnellement que le Chief Justice, donc le président de la Cour suprême, n'a pas très envie que l'affaire remonte jusqu'à lui, parce qu'il y a une différence majeure entre 2000 et 2020. En 2000, la Cour suprême s'est saisie de l'affaire alors que ce n'était pas du tout obligatoire. La Cour suprême de Floride pouvait très bien régler le problème. Et c'était quelque part un empiétement sur le droit des États, alors qu'elle prétendait être en faveur du droit des États. Mais cela a été accepté, accepté avec beaucoup d'élégance par Al Gore, alors que ce n'était pas du tout évident, c'était un recompte, est-ce qu'on continuait ? Non. Et accepté par l'opinion publique, parce qu'en 2000, la Cour jouissait encore d'un fort prestige, d'une aura, d'une légitimité. Depuis 20 ans, beaucoup de décisions, dont Bush versus Gore, une en matière de financement des élections et beaucoup d'autres, ont porté atteinte à la légitimité de la Cour. Et la crainte qu'a certainement le Chief Justice, c'est que s'il y avait une décision à 6 voix, les 6 conservateurs, contre 3, les 3 progressistes, donnant la présidence à Trump, il y aurait sans doute beaucoup de violence dans le pays, et là, la légitimité de la Cour n'existerait plus.
Une dernière question, Madame Desine, vous évoquiez donc ce scrutin de l'an 2000, où le candidat démocrate Al Gore avait perdu l'élection, bien qu'ayant gagné le suffrage populaire au niveau national, c'était encore le cas avec Hillary Clinton en 2016. Que faut-il en déduire sur ce système de vote singulier qui repose donc sur un collège électoral dont on rappelle que les membres sont désignés état par état, fonction du poids démographique, raison pour laquelle d'ailleurs certains le jugent parfois plus démocratique?
Alors c'est le produit de l'histoire. Lorsque les pères fondateurs sont passés des articles de Confédération à la Constitution actuelle, ils envisageaient que le président soit élu par le Congrès. Puis ils ont décidé qu'il fallait un corps électoral plus large, mais les petits États ont refusé le suffrage universel direct car ils ne voulaient pas être noyés, engloutis par les grands États. D'où ce système un peu bâtard qui fait la part belle aux petits États. Parce que si on considère les petits États qui ont par exemple 4 grands électeurs, 2 sont dus au Sénat. Donc il y a une disproportion. Alors que les deux sénateurs jouent pour très peu, si l'on pense à la Floride, qui en a 29 au total. Donc il y a ce biais dans le système. Cela fait plus de 20 ans que l'on parle de réformer le système. Mais comme c'est dans la Constitution des États-Unis, il faudrait un amendement à la Constitution qui nécessite des majorités qualifiées à la première étape, l'adoption, et ensuite la ratification. Et comme il faudrait que certains des petits États qui bénéficient du système ratifient l'amendement, il n'a aucune chance d'être adopté.
Merci Anne Desine, américaniste, professeure émérite à l'Université Paris-Ouest Nanterre et spécialiste donc des questions politiques, juridiques aux États-Unis, d'avoir répondu à notre invitation. Alors quel que soit le nom du prochain locataire de la Maison-Blanche, les États-Unis mettront probablement du temps à penser leur division, d'autant que le futur président trouvera non seulement un pays profondément divisé, mais aussi abîmé, ébranlé par une crise sanitaire, économique quasiment sans précédent, freiner la pandémie et limiter l'hécatombe du Covid, ce sera évidemment l'un des principaux défis à relever, de même que financer la santé des Américains, réduire le chômage, maîtriser le déficit, sans oublier la réduction de l'empreinte carbone afin de limiter l'élévation des températures sur la planète. Alors à ce titre, notons que c'est aujourd'hui même que les États-Unis sortent effectivement de l'accord de Paris sur le climat. Ce qui signifie en réalité, Véronique Robérotte, qu'un éventuel retour de Washington au sein de ce traité international est désormais suspendu, donc au résultat encore inconnu de cette élection.
Donald Trump l'avait promis, il l'a fait à peine élu il y a 4 ans, et il s'y tiendra. S'il est réélu, pas question de ramener les États-Unis dans l'accord de Paris. Le président républicain peut même se vanter d'un plutôt bon bilan carbone dû au déclin inexorable du charbon aux États-Unis. Malgré les efforts de Donald Trump pour relancer l'industrie, 145 centrales à charbon ont fermé sous sa présidence, bien plus qu'au cours du second mandat de Barack Obama. Loi du marché oblige, la production et la consommation d'énergie renouvelable ont battu des records aux États-Unis l'an passé. Le climato-sceptique Donald Trump n'y est pour rien. La décarbonation de l'économie américaine est en marche, même lentement, grâce aux initiatives des États, de municipalités, d'entreprises qui pourraient permettre aux États-Unis de réduire leurs émissions de carbone de 37% d'ici 2030. Faire revenir la deuxième puissance la plus polluante au monde, derrière la Chine, dans l'accord de Paris sur le climat, prendra peu de temps. Il suffira à Joe Biden, s'il est élu, d'envoyer une lettre officielle aux Nations Unies. En cas de présidence présidence démocrate, les USA pourraient être de retour dans l'accord de Paris sur le climat dès février 2021, quelques jours après que le nouveau président ait prêté serment. Avec quelle promesse ? Joe Biden s'est engagé à dépenser 1 700 milliards de dollars pour que les États-Unis atteignent la neutralité carbone en 2050 avec 100% d'énergie propre. Il a promis d'organiser rapidement une réunion avec les dirigeants des nations les plus polluantes pour les convaincre de revoir à la hausse leurs engagements pour le climat. Et pas question pour les pays de tricher sur leurs objectifs, prévient Joe Biden. Dans son collimateur, la Chine, accusée de jouer contre le système, de ne pas jouer la transparence et de saper, je cite, « nos efforts climatiques en devenant une économie de destination pour les pollueurs ». Entre Trump, fossoyeur du climat, et Joe Biden, peut-être futur gendarme du climat, aux Nations Unies, on a sûrement une petite préférence.
12h50 sur France Culture. Suite et fin de votre journal, Thomas Cluzel, on revient en Europe et plus précisément en Autriche.
Oui, parce que l'horreur a frappé une ville qui sans doute ne s'y attendait pas, épargnée qu'elle était jusqu'à présent par la violence djihadiste. Ce matin encore, le choc est à la mesure de la surprise à Vienne où la population pleure ses morts, tandis que les enquêteurs tentent toujours de retracer le parcours macabre de l'auteur de l'attentat perpétré lundi soir au cœur de la capitale autrichienne et revendiqué depuis par l'organisation terroriste État islamique. Hier, bien que la piste d'assaillant en fuite soit désormais écartée, la police a procédé à plusieurs arrestations dans l'entourage de l'auteur présumé de l'attentat, en l'occurrence un récidiviste de 20 ans, originaire de Macédoine du Nord, qui avait tenté de rejoindre l'EI en Syrie. En avril 2019, condamné puis incarcéré, il avait finalement été libéré en décembre de l'année dernière. En France, après une première polémique et plusieurs volte-face sur l'ouverture des commerces après le couac autour d'un éventuel couvre-feu en Île-de-France, annoncé par le porte-parole du gouvernement avant d'être aussitôt démenti par Matignon hier soir, nouveau cafouillage à l'Assemblée. Cette fois-ci, les députés étaient appelés à examiner en deuxième lecture un projet de loi clé sur la prorogation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février, un débat qui se sera finalement enlisé entre votes litigieux, chahuts dans l'hémicycle et suspensions de séance. Au point que le ministre de la Santé, Olivier Véran lui-même, aura été contraint de revenir rapidement au Palais Bourbon, en vain, puisqu'une prolongation de l'état d'urgence a bel et bien été votée, mais jusqu'au 14 décembre seulement. Alors comment les oppositions ont-elles réussi à contrer le gouvernement ? Tout simplement, Stéphane Robert, parce que la majorité s'est retrouvée minoritaire au moment du vote.
La République En Marche s'est retrouvée en minorité à l'Assemblée hier soir à cause d'un cafouillage, nous dit-on, sur les délégations de vote, et parce que l'opposition s'est bien organisée. Une cinquantaine de députés, les Républicains, ont semble-t-il débarqué à l'improviste. Le résultat est qu'un premier amendement a été voté contre l'avis du gouvernement. Pour prolonger l'état d'urgence jusqu'au 14 décembre seulement, le gouvernement réclamait le 16 février. Puis un second amendement a été adopté pour interdire la prolongation du confinement au-delà du 30 novembre sans l'accord du Parlement. Et du coup, un peu avant 23h hier soir, le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'est précipité à l'Assemblée.
En application de l'article 96 du règlement, le gouvernement demandera la réserve des votes sur les amendements et les articles de ce texte.
La réserve des votes permet d'empêcher l'adoption des amendements un par un au fil des discussions et de tout voter en bloc à la fin des débats. Face à l'incompréhension des députés, Olivier Véran a repris la parole un quart d'heure plus tard.
Mesdames et messieurs les députés, j'étais avec le Premier ministre Jean Castex dans un déplacement dans un grand hôpital du sud francilien à Corbeil-Essonne. Je suis rentré dans deux chambres. Dans la première chambre, il y avait un jeune homme de 28 ans, en coma, intubé, ventilé. Dans la deuxième chambre, il y avait un homme en surpoids âgé de 35 ans. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Elle est là, la réalité de nos hôpitaux. Vous êtes en train de débattre de sujets alors que nos soignants se battent pour sauver des vies de cette manière-là dans nos hôpitaux.
S'est ensuivi une multiplication de rappels au règlement et de demandes d'explications. Et puis l'opposition, notamment par la voix de l'insoumise Mathilde Panot, s'est emportée à son tour.
C'est insupportable, monsieur le ministre, le chantage que vous êtes en train de nous faire. Tout le monde ici a conscience de la gravité de la situation. Oui, nous avons le droit et nous allons continuer de critiquer vos décisions parce que la démocratie, cela fonctionne comme cela, que ça vous plaise ou non.
Les débats se sont interrompus à 1h la nuit dernière. Ils reprendront cet après-midi et il reste une centaine d'amendements à examiner. La procédure de réserve des votes devrait permettre au gouvernement de revenir sur les deux amendements adoptés hier soir. Les discussions et l'adoption du texte est en principe prévue ce soir, avant transmission pour examen demain au Sénat.
Parce que le reconfinement en vigueur depuis vendredi dernier, décidé pour un mois, va inévitablement faire replonger l'activité et grever le rebond du troisième trimestre, le gouvernement a décidé, pour limiter les faillites, de remettre 20 milliards d'euros sur la table, d'où la présentation ce matin au Conseil des ministres, Marie Viennot, d'un nouveau projet de budget rectifié pour 2020, le quatrième depuis le début de la crise.
4 projets de finances rectificatives dans l'année, ce n'était pas arrivé depuis 2011. Une nouvelle fois, le gouvernement doit entériner la dégradation des prévisions économiques et de nouvelles dépenses pour 20 milliards d'euros, dont l'essentiel soutiendront le tissu économique fragilisé par ce deuxième confinement. Quasi 2 milliards sont budgétés pour l'augmentation des dépenses de santé, mais à part ça, 11 milliards doivent aller au fonds de solidarité, 3 milliards au chômage partiel, 3 milliards encore pour les exonérations de cotisations sociales. Le soutien aux plus précaires, étudiants moins de 25 ans, ne pèse pas lourd en regard. 1 milliard 100 millions pour ce quatrième budget rectificatif. Alors, si on additionne toutes ces dépenses, on tombe pile sur 20 milliards d'euros pour ce quatrième budget. Mais en fait, l'exécutif a prévu de la marge. Car les aides votées lors des précédents budgets n'ont pas été entièrement dépensées. Pour le chômage partiel, par exemple, 31 milliards budgétés, 22 versés. Bercy se défend d'avoir prévu large au cas où le confinement se prolongerait et explique que l'argent en trop permettra de ne pas arrêter les aides du jour au lendemain. Aucune nouvelle recette n'est prévue dans ce budget. Le précédent record de déficit de 2009, 138 milliards d'euros, est donc largement dépassé puisque ce dernier projet de budget table sur 248 milliards financés par de la dette qui n'est absolument pas une préoccupation du gouvernement pour le moment.
On termine avec un mot rapide du temps pour cet après-midi. Du sud de l'Alsace et de la Franche-Comté à l'est de l'Auvergne, en Rhône-Alpes et sur l'est de PACA, le ciel restera assez largement couvert du soleil partout ailleurs. Quant aux températures, elles afficheront entre 9 et 20 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.